Bienvenue au balado Soirée Peinture. On est un groupe d'amis qui se rejoint à chaque semaine pour jaser de hobbies, peinture, des wargames, collection de modèles, du modélisme. On voulait partager notre passion à travers un balado pour jaser de nos projets, puis nos trucs, les partager avec vous autres, puis espérer vous inspirer un petit peu. Dans chaque épisode, on va faire un tour de table pour se présenter, puis vous présenter ce sur quoi est-ce qu'on travaille. On va aussi avoir un segment d'épisode qui va plus être un thème en particulier qu'on va essayer de pouvoir vous partager pour pouvoir essayer de creuser plus en profondeur. Puis, une dernière section du podcast va être plus sur l'actualité du hobby, quelque chose qui nous a inspiré, qui nous a frappé dernièrement, qu'on aimerait pouvoir discuter avec vous, puis peut-être vous faire réagir, vous faire réfléchir. Dans chacun de ces segments-là, on va aussi avoir par moment un invité, un passionné du hobby qu'on va amener dans l'épisode qui va pouvoir venir nous partager un peu qu'est-ce qu'il fait dans son hobby, qu'est-ce qu'il fait triper, puis qui va participer avec nous autres. Des fois, c'est un ami, des fois, c'est un inconnu qu'on veut vous faire découvrir, puis que nous, on découvre aussi en même temps. Fait que ça va être une belle aventure pour tout le monde. Donc, sans plus attendre, bonne soirée peinture, bonne écoute. Pour ce premier épisode, je pense que notre tour de table, ça vaudrait la peine qu'il se concentre un petit peu plus sur notre historique en tant qu'hobbyiste. Comme ça, ben, les gens qui nous écoutent vont pouvoir avoir une meilleure idée de savoir qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait comme hobby. Voilà, fait que peut-être, David, tu as toujours trop d'affaires à dire. Hein?
Merci. Ben écoute, en gros, mon rapport au Wargame, ça a commencé avec mon grand-père. Mon grand-père qui, lui, en avait fait un peu dans les années 30 avec son frère, puis il plaçait des figurines sur une carte pendant qu'il y avait la guerre civile en Espagne, puis écoutait ce qui se passait à la radio pour faire déplacer les fronts et tout. Quand mon premier cousin est né, il cherchait quelque chose qu'il pourrait faire avec ses petits-enfants et qu'il a commencé à peindre des figurines napoléoniennes, donc pour faire du wargame napoléonien en format 1,72. Moi, j'ai découvert ça, j'ai découvert sa collection chez eux, puis mon cousin, bien entendu, a embarqué à fond, puis lui, il s'est mis à jouer à des jeux de Game Workshop. Ça a été ça mon premier contact. Puis quand je suis revenu au Québec, j'ai demandé à mon père de m'acheter à l'époque Manowar, qui était le jeu de bateau de Warhammer Fantasy. Mais sinon, après, c'est plus dans les années 96, avec ma gang secondaire, que j'ai retrouvé un White Dwarf dans un magasin de revues. Là, j'ai commencé à leur parler de ça. On a joué à Necromunda en premier. Après ça, on alternait entre Fantasy, Necromunda, puis après ça, 40K. Mais c'est ça. Puis quand on a commencé, on allait dans une petite boutique. Puis là-bas, il était bien gentil, mais il nous montrait pas comment peindre. Fait que la plupart d'entre nous, on peignait pas. Fait qu'on avait nos armées en métal ou en gris. Je pense début 2000, certains d'entre nous ont arrêté. Puis j'ai vraiment recommencé en 2010 parce que notre bon ami à tous était devenu gérant du Game Workshop. Il nous a tous réinitiés. C'est grâce au Game Workshop que j'ai recommencé à jouer. Puis à peindre surtout parce que j'avais du monde qui m'aidait au magasin à découvrir le hobby, à développer des techniques qui rendaient ça agréable. C'est vraiment ça mon parcours. Puis encore une fois, les jeux qu'on joue, Age of Sigmar, Warhammer 40 000, que je joue plus souvent que le reste. Sinon, avec Maxime, entre autres, on joue à Blood and Plunder et Oak and Iron de Firelock Games, qui c'est du historique à l'époque des pirates. Et j'ai aussi Saga, que je joue avec Kevin et notre ami Sébastien, où on fait les Vikings contre les Anglo-Saxons. Des jeux historiques, j'aime bien ça. J'ai du napoléonien en train de se faire, mais comme ça demande des centaines de figurines, je suis pas encore prêt de jouer. J'en ai de peint, mais je suis pas encore prêt de jouer.
OK, cool. Peut-être qu'on peut passer tout de suite à Max.
Moi, j'ai commencé aussi au secondaire. Fait que il y a plus d'une vingtaine d'années, ça commence à faire. Moi, tu vois, c'était Warzone, qui est un jeu de figurines qui faisait compétition à Warhammer 40K dans le temps. Le magasin proche de chez moi, à Laval, poussait beaucoup ce jeu-là. Puis c'est plus au cégep, avec vous autres, dans le fond, que j'ai redécouvert le jeu de figurines avec Games Workshop puis les autres produits. Pour être franc, je planifie plus de jouer que je joue pour vrai. Mais disons que je planifie des parties de Age of Sigmar, de Warhammer 40K, qui sont, on va dire, les classiques. Je me suis beaucoup investi dans Underworld aussi, qui combine l'aspect jeu de cartes que je trouve assez intéressant. Puis sinon, au niveau d'autres compagnies, Blood and Plunder, Oak and Iron, The Firelock Games, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Ça change complètement le système des jeux Games Workshop, puis des petits jeux plus indépendants aussi. Rumble Slam, qui est un jeu de figurines de lutte. Gazland, qui est un jeu de véhicules avec des petites voitures. J'essaie de me diversifier un peu dans mon hobby. Pour ce qui est du genre de hobby que je fais, bon, mettons que c'est une grosse question. La peinture, je dirais que je l'ai fait pour le produit fini. Malgré tous les bons conseils et toute la bonne volonté, j'ai pas encore, je pourrais dire, du plaisir à peindre. La peinture fait le travail pour moi. Je suis bien heureux. On a vraiment accès à des produits exceptionnels des différentes gammes de nos jours. C'est plus au niveau du modélisme et du kitbash que je fais sortir mon côté artistique, disons-le avec des guillemets. Les armées que j'ai qui me représentent le plus, là, je dirais que c'est mon armée de Astra Militarum de 40K, où j'ai cannibalisé toute ma vieille armée de Bretonniens pour lui donner un look médiéval qui, je pense, est quand même assez réussi. Fait que c'est là que, pour moi, j'ai plus ma force dans le hobby.
Phil?
Ouais, moi, dans le fond, j'ai commencé les jeux de figurines, je devais être au secondaire, là, je devais 12-13 ans environ. Ça a pas mal toujours été du Games Workshop. T'sais, même quand je connaissais pas c'était quoi, j'ai commencé avec Battle Masters, puis avec j'ai HeroQuest, mais c'était Dark World, qui était après HeroQuest, qui était une version plus simple de Games Workshop. Puis après ça, en allant fouiller dans un magasin à Montréal que certains vont connaître, là, le Valet de cœur, c'est là que j'ai découvert les figurines de Games Workshop puis leurs jeux. Je pense que la première boîte que j'ai achetée, c'était le kit de départ Bretonnier versus Lizardmen, quand c'était les deux nouvelles armées là, qui sortaient. Là. Ça fait assez longtemps. Donc, c'est ça. Je pense que j'avais acheté aussi celle de 40K dans le temps, qui était le début des Black Templar contre des vieux Dark Eldar avec des casses bizarres.
Tu veux dire le nouveau kit qui vient de ressortir?
Non, le kit vintage qui se vend sur Internet trop cher de nos jours. On avait gardé. Fait que c'est ça, ça a toujours été pas mal du Games Workshop, donc les différentes déclinaisons là, de ce qu'ils font. Donc, c'est pour la même chose, les armées que je joue, ce que je collectionne, c'est pas mal tout du Games Workshop. On aura sûrement plus le temps d'en parler, mais il y a ce que je joue dernièrement, donc comme un peu Dave disait, on est plus sur du 40 000 en ce moment, donc Space Marine, Astra Militarum récemment. Sinon, j'ai toujours été, et j'attends qu'ils les refassent dans Age of Sigmar, je prie chaque matin. Les Dark Elves, qui sont mon armée fétiche, le mauve, les trucs pointus, j'attends toujours. Dans le fond, si je regarde pour mon hobby lui-même, ça l'a changé un peu avec le temps. J'ai déjà été un joueur vraiment compétitif. J'allais dans les différents tournois là, au Québec puis au Canada. J'étais même allé à deux tournois aux États-Unis. Donc, ça a été une partie que j'ai bien aimée. Là. C'était plus quand j'étais collège, début d'université. Avec le temps, je me suis plus reconcentré sur la peinture. Puis effectivement, maintenant, jouer, c'est un peu comme la récompense. C'est beaucoup plus peinturer, conversion, faire des décors. Donc, c'est beaucoup plus ça là, qui m'intéresse, là, des nouvelles techniques de peinture. C'est ça.
Moi, ce que je veux savoir, j'ai acheté la même boîte que toi de Fantasy, avec les Bretonniers puis les Lizardmen. C'est lesquels t'avais gardé pour jouer?
C'était les Bretonniers. Je pense que comme beaucoup de nous qui ont joué avec ça, puis Max aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, c'était tellement le fun d'avoir, je pense, des chevaliers qu'on pouvait mettre des héraldries différentes. C'était quand même un beau kit que chacun avait des casses, des boucliers différents.
Oui. C'était un beau kit. Il y avait leur formation en
lance. En fer de lance. C'était assez cool. Puis on se rappelle que les hommes lézards, c'était comme deux unités là, dans ce temps-là. Là. C'était le Saurus puis le petit King. Là. C'était pas mal ça au début.
On s'entend que ça a changé pas mal depuis, hein?
Assez.
Je vais me présenter. Je pense qu'on est pas mal rendu à moi. Mon nom est Kevin. Dans le fond, moi, dans le hobby, je fais un peu de tout, dans le sens où je fais du Games Workshop, je fais du Rumble Slam avec Max, je fais du pas Blood and Plunder, clairement pas, du saga avec David. Mais c'est clair que je suis pas mal plus dans le jeu de Games Workshop. Là. Fait que pas mal un peu de tout. Aeronautica puis Underworld, j'ai clairement pas encore accroché. Bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour, là. Je fais du hobby depuis 2011. Bon, fun fact, toutes mes amies jouaient à du Games Workshop toute mon adolescence, puis j'étais clairement le gars qui jugeait mes amis parce qu'ils faisaient du Games Workshop. Et ça, c'était toute mon adolescence. Et fast forward, en 2011, j'ai eu une entrevue pour travailler au Games Workshop, puis j'ai quitté un magasin de linge pour devenir vendeur chez Games Workshop. Puis j'ai découvert le hobby à ce moment-là. Donc, j'ai appris à peindre, j'ai appris à assembler, j'ai appris à jouer. J'ai appris l'univers au complet de Games Workshop et du hobby à travers mon emploi chez Games Workshop. Fait que c'est clair que ça a un peu teinté là, les peintures que j'utilise, les techniques que j'utilise, les produits que je consomme. Fait que c'est clair que ça va transparaître dans mes conversations puis dans mes présentations. Là. Les armées que je collectionne le plus... je pense que c'est plus simple si je dis ceux que je fais pas. Parce que j'en ai clairement énormément beaucoup. Et encore une fois, fun fact, j'ai clairement collectionné plus de modèles de Games Workshop depuis que j'y travaille plus que quand j'y ai travaillé. Donc, pour ceux qui pensent que le rabais chez Games Workshop, ça change tout, clairement pas. On dépense plus après avoir travaillé là. Je suis pas mal balancé, je dirais, dans ce que j'aime dans le hobby, là. Dans le sens où que j'aime vraiment jouer, j'aime vraiment peindre, j'aime vraiment faire des kits bash, des conversions, j'aime assembler des modèles. Peut-être que si j'avais d'affaires à séparer, là, mettons, j'ai peut-être un petit peu plus d'appréciation pour l'assemblage. J'aime ça assembler. Tant sur temps que c'est pas des rhinos ou des tanks avec des tracks, ça me fait mourir. Mais ouais, c'est pas mal ça. J'ai... Détail intéressant, ça dépend toujours pour qui, là, mais je pense que c'est un peu intéressant. J'aime beaucoup l'aspect psychologique du travail dans le hobby, le bien que ça nous fait, l'espèce de soutien d'une bonne santé mentale que ça peut faire. Puis, j'aime l'aspect socialisation du hobby. J'aime l'aspect comment est-ce que ça peut amener certaines personnes à socialiser plus en faisant du hobby qu'à n'importe quel autre moment de leur année, de leur journée, de leur semaine. Fait que ça me fascine, ça me passionne. Tant qu'à parler de quelqu'un d'autre que de nous autres, on a invité ce soir qu'on a amené avec nous pour le premier épisode. Ben, c'est un de nos bons amis qui fait beaucoup de hobby avec nous régulièrement. Il est arrivé dans notre groupe, ça fait quand même quelques années. Puis on s'est dit que ça valait la peine de pouvoir vous le présenter. Fait que Simon, here's the floor. C'est à toi.
C'est stressant, c'est drôle. On dirait que je me sens à l'école. Hey, c'est à ton tour de présenter ta présentation.
Ouais. Je continue ta vie. Tu veux, là?
Je vais te raconter ma vie de hobby, là, du moins. Moi, j'ai commencé dans le hobby, ça fait à peu près 5 ans, je dirais. C'est quoi les jeux présentement que je joue? C'est pas mal concentré sur Warhammer 40K. J'avais beaucoup d'intérêt dans Kill Team, mais dernièrement, j'ai pas eu vraiment la chance de jouer depuis l'édition 2021. Mais j'ai vraiment aimé l'édition 2018. J'ai joué probablement plus de games de Kill Team que de games de Warhammer en général, là, pour des raisons de temps, puis de simplicité et d'efficacité. Là. Je fais du hobby depuis peut-être 2017. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Kevin qui m'a vendu ma première boîte à vie de Warhammer quand il travaillait au Games Workshop. Lui et Ben m'ont rentré dans la 8e édition comme un bon nouveau qui n'a aucune peinture, aucun pinceau, qui n'a jamais monté un modèle de sa vie. Là,
qu'est-ce qui t'avait amené à vouloir commencer ça?
Comment j'ai commencé, c'est qu'au départ, moi, je jouais un jeu qui s'appelait X-Wing The Miniature Game. Un coup j'ai été initié avec ce jeu-là, ben, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de pouvoir juste me show up dans un store puis juste pouvoir jouer avec des gens qui étaient aussi fans que moi du jeu, puis pouvoir en discuter, pouvoir en parler. Il y a un aspect que j'aime beaucoup du hobby, c'est la communauté. Puis le fait de pouvoir partager ses idées ou partager même l'aspect gaming, même si on ne se connaît pas, c'est un langage. Je pense que Games Workshop et l'univers de Warhammer est un langage à part entière. Là. Quand tu rencontres quelqu'un qui est aussi passionné que toi, qui parle de Games Workshop, ça me surprendrait que tu finisses par épuiser le sujet de conversation. Là. Fait que, l'aspect communauté, c'est vraiment ça qui m'attire. Puis, si je retourne à ce que je disais, c'est Kevin m'a vendu ma première game au début de la 8e. Fait que j'ai commencé avec la Dead Guard. Fait que la Dead Guard, ça a été un peu le coup de cœur que j'ai eu au départ. J'avais pas vraiment de connaissance de l'univers au départ. Fait que je suis un peu allé avec ce que je trouvais cool. Fait que Kevin, il m'a vendu ma boîte de 8e. Il m'a dit, garde, ça te prend cette peinture-là, achète-toi une coupe de pinceau, let's go. Puis je me souviens avoir texté Ben une couple de semaines plus tard, là, avec des photos des premiers Space Marines que j'avais peints. Tu sais. Faudrait que j'essaie de trouver ça d'ailleurs. Puis j'étais content, oui. J'étais fier de moi, là, j'étais comme oh yes, c'est mon premier Space Marine, là, mon premier Chaos Space Marine. Là. Mais c'était comme un peu l'achievement. Là, fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais fait que c'est ça, à travers le temps, surtout la pandémie, j'ai arrêté de jouer à X-Wing de Miniature Game. Là. Fait que j'ai concentré tous mes efforts dans Warhammer. Là. Fait que je collectionne la Dead Guard. Là. Dernièrement, j'ai décollé une armée de Chaos Knight. Puis une armée d'Adeptus Mechanicus que j'aime bien. T'sais, le genre de hobby que je fais, moi je fais un peu de tout. Là. Je fais du modélisme, de la magnétisation de mes modèles parce que ça me fait triper. T'sais. Mais je fais aussi de la peinture. Là. Récemment, je me suis acheté un airbrush. Ma cadence de complétion de projet est assez lente là, quand je la compare à certains joueurs dans notre groupe. Là. Fait que c'est assez long de pondre des projets. C'est pas parce que je travaille pas dessus, là, c'est que c'est juste interminable.
Là, tu nous dis ça. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous partages une photo de ton Mortarion. Juste pour que les gens qui écoutent le balado puissent entendre ce que tu dis par là, ça me prend du temps à finir des projets. Puis je pense que ça vaut quand même un peu la peine. Ils vont voir les photos et vont faire OK, là, pour vrai, il fait exprès. Là.
Ben, c'est gentil de me dire ça, merci. Mais en réalité, le niveau de peinture, le niveau d'effort que je mets là-dedans, j'ai l'impression parfois que ça ne vaut pas nécessairement. Je le fais parce que j'aime ça peindre. Le produit final m'importe peu. C'est ça le point que je veux dire. C'est plus la journée et non la destination. C'est comment je me rends là et non qu'est-ce que je vais avoir au bout du compte. La game, c'est un peu le nanan au bout. Là, c'est de préparer mes modèles puis en l'optique de soit une campagne qu'on se fait ensemble, en chum, ou dans l'optique de on se prépare une game qui s'en vient puis OK, on se donne un objectif précis. Là, le Mortarion que tu parles justement, ben, c'était dans l'objectif de notre campagne narrative de Plague War. Fait que, tu sais, ça me faisait plaisir de travailler là-dessus. Puis qu'au bout du compte, ben, le nanan, ça va être de le mettre sur la table. Probablement qu'il va mourir tour 1, là, mais ça, on en reparlera rendu là, c'est pas grave. Mais, tu sais, c'est un peu ça, là, mon journey dans le hobby. Autre détail intéressant sur moi, je suis maintenant papa, puis j'essaie de trouver une balance entre la famille et le hobby, tu sais. Puis un peu comme ce que Kev disait tantôt, mais le hobby, c'est vraiment un peu un exutoire, puis une façon de relaxer, puis une façon de, tu sais, juste me sortir un peu de la frénésie quotidienne. Là. Fait que je suis encore en train de trouver une façon là, de balancer les deux. Chose est sûre, c'est que le hobby, c'est là pour rester, là. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une façon pour moi de m'exprimer, mais aussi une façon pour moi de libérer le stress là, juste du quotidien. Évidemment, je peux plus peindre tous les jours. Évidemment, je peux pas gamer tous les semaines. Tu sais, je pense qu'on est tous un peu là-dedans là, quand tu arrives dans le monde. Le monde sérieux du travail, la famille, à un moment donné, il faut trouver du temps pour tout. Là. Je sais que toi, Dave, David, tu peux nous en parler. Tu es en train de dealer avec ça d'une façon très ingénieuse. Là.
Ben, je te comprends tout à fait. Moi, je suis à mon deuxième enfant. Et, pour vrai, je ne passerai pas de mes soirées de peinture ou de mes soirées ou, de wargame. Là. Comme tu dis, là, c'est vraiment ça. C'est que ça permet de libérer le stress, de penser à autre chose. J'avoue que les semaines où j'étais un peu fatigué, j'en ai moins fait. J'ai regretté là, le, de ne pas avoir pris un petit 15 minutes le soir juste pour faire un petit bout de peinture, une petite conversion, parce que non, ça, ça aide vraiment à passer au travers de la journée et des autres du reste. Puis je pense que c'est quelque chose. Quand t'es. Il y a souvent des blagues que je trouve dommage, là, mais sur le fait que les blondes ne comprennent pas et ils veulent pas. Moi, je suis content d'être avec quelqu'un qui comprend l'importance que le hobby a dans ma vie, puis comment ça m'aide aussi à quand je suis en train de faire du hobby, à avoir l'esprit plus libre et à être capable de plus participer aux tâches ménagères, plus participer, faire ma part dans la maison, faire ma part dans l'éducation des enfants aussi. T'sais.
Ouais, j'adore ça ce que tu dis d'avoir une conjointe qui est comme qui comprend ça, tu sais, parce moi, je travaille de la maison, là, puis mon hobby station est juste à côté de la place où je travaille. Là. Fait que, tu sais, des fois, ma blonde, elle doit se dire, hey, il passe tellement de temps dans le bureau, tu sais, il travaille là toute la journée, puis un coup que les enfants sont couchés, fait, que le bébé il est couché, ben, je retourne nécessairement un pain de, je sais pas, moi, une demi-heure, là, je vais en faire quelques petits détails sur un modèle, tu sais, que je suis en train de travailler. Mais, tu sais, je le vois pas comme une prison ici, là. Je le vois, c'est complètement l'inverse, là. C'est la liberté, là.
Faut définitivement que tu nous donnes des photos de tes projets, qu'on les mette sur le groupe Facebook pour que les gens puissent voir.
Ben, merci. Puis en 2022, je m'étais donné un petit objectif de me starter un Instagram pour mes projets, là. Fait que dernièrement, j'ai commencé à mettre des photos. Ben, tu sais, je voulais vraiment que ça soit une plateforme libre là, où que je peux juste poster des work in progress. Puis...
Tu sais, je dis pas ça juste parce qu'on est amis, là, mais personnellement, dans les hobbyistes que j'ai pu introduire dans le hobby, tu fais partie de ceux qui ont skyrocket au niveau de la qualité de peinture, la capacité de créativité dans tes projets.
C'est très cool. Je vais essayer de partager une couple de photos. Là, peut-être mon cheminement, là, j'ai commencé où puis qu'est-ce que je fais présentement, mais je peux terminer en disant merci les gars, puis, honnêtement, là, les soirées peinture, mais pas juste les soirées peinture, là, l'inclusion dans la communauté d'amis, puis de hobbyistes, puis de monde qui partage la même passion, puis c'est une grande partie de ma vie maintenant, puis quand je parlais de faire partie de la communauté, ben, vous m'avez inclus là-dedans à bras ouverts, puis je suis vraiment content d'en faire partie, là, puis je vous remercie tous et chacun pour ça.
Donc, dans le fond, après la présentation, là, là, vous avez appris à nous connaître un petit peu plus. Fait qu'on a un thème à chaque épisode. Puis David nous en avait suggéré un. Fait que je vais le laisser vous en parler parce que c'est lui la meilleure personne pour pouvoir en jaser. Fait que David, vas-y donc.
Merci Kevin. Donc aujourd'hui, pour notre premier épisode, on a décidé de se poser la question « Qu'est-ce que le jeu de guerre, aussi connu sous son nom anglais « Wargame » ?» Ce que je vous propose, c'est qu'on commence chacun notre tour par dire comment on voit ça, qu'est-ce que c'est pour nous. Puis après, je vous reviendrai avec ce que j'ai trouvé dans mes petites recherches. Donc Maxime, veux-tu commencer avec ta vision du Wargame, du jeu de guerre ?
Ouais, ben le wargame, c'est dans le fond une simulation. On prend un conflit, une guerre qu'on utilise pour raconter une histoire avec des figurines. Il me semble, puis tu me corrigeras, David, là, mais ça a une base historique, là. C'était vraiment genre des reconstitutions de batailles puis tout ça. Puis aujourd'hui, je pense que, ben, à part toi peut-être, David, notre hobby est plus dans des mondes fantastiques ou de science-fiction. Est-ce que ça peut tout à fait être du wargame ou c'est plus des jeux de figurines? C'est à voir, mais je pense que c'est ça. Il y a une longue tradition de wargame qui est bien différente aujourd'hui, là.
Honnêtement, j'ai aucune idée de ce serait quoi ma définition d'un wargame. J'ai beau y réfléchir, là. Depuis que Max a commencé à l'expliquer, je me dis, ben là... Je sais pas, là. C'est quelque chose qui raconte une histoire. Un jeu qui me permet de pouvoir raconter des histoires. Des histoires qui sont des histoires, des éléments historiques qui sont déjà arrivés, comme quand on joue à Saga, par exemple, où est-ce qu'on refait des éléments historiques des guerres qui existent déjà. Ou que ce soit du Warhammer, où est-ce qu'on se crée une campagne, où est-ce qu'on crée des conflits, on crée des raisons pour lesquelles est-ce que le monde se tape sa gueule. Pour moi, c'est un peu ça. C'est une façon de pouvoir laisser aller mon flow créatif, narratif. Avec des beaux modèles que je peins, puis c'est ça.
Toi, Phil?
le wargame, si on reste dans le concept de définition, là, fait que, moi, pour moi, la différence entre un board game et un wargame, donc un jeu de guerre ou un jeu de société, c'est comme un peu, vous avez déjà dit, là, c'est que le wargame, il y aurait un conflit ou il y aurait, tu sais, donc une histoire aussi, un peu comme Kevin y dit, donc de où l'origine historique, j'imagine. Mais effectivement, la différence entre un jeu de société et un jeu de guerre, pour moi, c'est dans le titre, là. Après ça, est-ce que ça a besoin d'avoir des figurines? Je sais pas, mais moi je trouve ça bien plate s'il n'y a pas des figurines à peinturer. Ça, c'est sûr. ça m'intéressera pas.
Ça, s'il n'y a pas des figurines à peinturer, donc pour toi, là, comme, un peu comme Simon.
Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il pourrait avoir des figurines. Exemple, quand j'ai commencé avec Battle Master, je savais pas qu'on pouvait peinturer ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans un wargame, au début, ils vont vouloir juste jouer. Parce que d'habitude, c'est des jeux qui vont avoir plus de règles et d'options. Ils vont avoir des. Il va avoir beaucoup plus de profondeur sur certains trucs que. Ben, quoi, qu'il y a des jeux de société quand même, là, Dune et compagnie, qui peuvent être assez deep. Là, mais effectivement, Dave, ça veut pas dire qu'ils ont à être peinturés. Mais oui, moi, il faudrait qu'il y ait des figurines, puis je rajoute, faut que je puisse les peinturer. Sinon, maintenant, je trouverais ça plat. Mais à une certaine époque, je pense qu'il y a une progression de beaucoup de personnes. T'sais, si on parle du wargame que nous, on parle beaucoup, le jeu de figurines avec jeu de figurines wargame à peinturer. Je crois que c'est une progression, là, jeu de société vers les wargames avec figurines, vers la peinture et tout ce qui va avec. Un peu comme Simon quand il parlait de son X-Wing vers Games Workshop. Là.
Exact. Tu vois, Simon, est-ce que ça t'avais quelque chose à rajouter là-dessus ou ça faisait déjà pas mal le tour, hein?
Côté de définition, selon moi, le wargame, c'est un environnement où soit il y a un conflit ou soit il y a un objectif, puis ça oppose souvent deux joueurs, ou je devrais dire deux camps séparés, tu sais, ou pas deux ou plusieurs camps, mais dans un monde qui est plus large que simplement la petite fenêtre qu'on est en train de regarder, tu sais. Puis je regarde, par exemple, un jeu de wargame qui est, mettons, Warhammer 40 000. C'est une bataille de des centaines et des centaines de personnes qui se déroule en 5 tours. Mais en réalité, ça a duré combien de temps? T'sais, si on imagine l'espace-temps dans lequel ça se serait produit, ça serait produit en l'espace de quelques minutes. Mais nous, on a joué 4 heures de temps à planifier tous les déplacements, toutes les unités. T'sais. Fait que c'est un élément que je trouve que le wargame a un peu tout son sens parce qu'on peut s'amuser à prévoir, s'amuser à faire la stratégie, tu sais. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Si je prends X-Wing, un combat de X-Wing qui dure 1h30, si tu imagines une scène de film qui représente le combat que tu viens de faire, c'est possiblement 10 à 20 secondes. Là. Tu sais, c'est 4 ou 5 déplacements par vaisseau. Chaque vaisseau a tiré 3-4 fois, puis il y a des explosions qui se sont passées. Pour dresser le parallèle avec Warhammer, ben, ou dans Kill Team, ou peu importe, dans Age of Sigmar, on fait des champs de bataille qui sont avec des centaines de vies qui sont représentées par nos modèles dans l'espace-temps de quelques minutes. Là. Mais nous, on joue sur ça, à faire la stratégie pendant des heures. Là. Fait que, tu sais, selon moi, ça, c'est un aspect du wargame.
Fait que David, c'est quoi ta définition exactement?
Ben en fait, je voulais regarder un peu pour une définition de ce qu'est le wargame. Et je me suis dit, hey, je vais regarder dans mon super Wargaming Compendium fait par Henry Hyde, qu'on connaît pas ou très peu ici, mais qui est une sommité du wargame en Angleterre. Et il a pas mis de définition, parce que j'en comprends qu'il assume que si t'achètes le livre, tu sais déjà c'est quoi. Mais en regardant un peu autour, ben, ça rejoint pas mal tout ce que vous disiez déjà dans vos définitions. C'est-à-dire que le wargame, c'est vraiment une simulation d'un conflit entre plusieurs parties, entre plusieurs groupes de personnes. Puis donc, cette simulation-là va prendre la forme d'un jeu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ils font remonter ça à l'invention des échecs et même plus loin à l'invention du Go. Mais là, on s'entend que c'est assez abstrait, là, les échecs et le Go comme conflit, comme guerre. Ce qui fait que pour avoir un vrai wargame, on parle souvent du 19e siècle avec le Kriegsspiel en Allemagne. Fait que dans le fond, les Prussiens qui ont été comme humiliés pendant les guerres napoléoniennes parce qu'ils ont été défaits par les armées de Napoléon, décident d'entraîner leurs officiers en créant un jeu de guerre, mais qui reprend le plus possible la réalité et les simulations pour entraîner leurs officiers à prendre des décisions au combat. Puis c'est vraiment au 20e siècle avec Herbert George Wells, qui est le dude qui a fait la guerre des mondes. Lui a écrit un livre qui s'appelle Little Wars, qui était en fait un livre pour de règles pour utiliser ces petits soldats de plomb pour que les jeunes enfants puissent faire des jeux de guerre. Et à partir de ce moment-là, il s'est développé tout un côté ludique autour du jeu de guerre qui arrive jusqu'à nos jours avec Game Workshop. Donc, ouais, ça rejoint pas mal ce que vous disiez. Conflit entre deux personnes, entre deux groupes ou entre plusieurs groupes. C'est pas nécessairement, comme ça a été mentionné, limité aux figurines. Fait que dans le fond, même si vous regardez dans nos magasins favoris ou certains magasins qu'on a au Canada, la section War Game va être les jeux dans des boîtes en carton avec des jetons en carton. Puis vous allez avoir la section miniature qui va regrouper les wargames que nous on joue, donc les wargames avec des miniatures.
OK. Bon, ben je vais clairement me coucher moins niaiseux à soir.
Tu vas te faire éduquer, Kev.
Ouais, ben. Ouais. Bon, là, je vais faire un compliment à David, là. Mais si j'ai d'affaires à me faire éduquer, je l'aime mieux que ce soit par David que par n'importe qui d'autre. C'était vraiment cool. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait comme autant d'aspects au jeu, à la définition, c'était quoi un wargame. C'est vraiment nice. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Ouais, ben moi, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, mon recherchiste préféré a sorti quelques éléments. Là. Mon recherchiste préféré est en Wikipédia.
Merci, Wikipédia.
Ouais, non, mais sans aller vous lire l'article Wikipédia, tu sais, je pense qu'il y a des points intéressants. Simon parlait un peu du temps. Tu sais, c'est sûr que la gestion du temps, on le voit dans nos jeux de figurines, mais tu sais, c'est présent dans tous les wargames. On est limité par le temps. La partie, contrairement à la guerre, la partie s'arrête à un moment donné. Fait qu'il y a une économie d'action. Il y a un travail qu'il faut faire pour prioriser des mouvements de troupes ou des actions. C'est un truc hyper important, le déplacement. Et après ça, les conditions de victoire, comment les objectifs sont faits, que ce soit dans de la reconstitution historique, donc de reprendre les mêmes objectifs qu'une bataille précise, ou après ça, dans un jeu compétitif. Souvent, nous, ce qu'on peut voir, c'est avec les tournois auxquels on participe. Là. Donc, c'est les éléments intéressants. Puis, il y a différents jeux qui sont à différentes échelles, donc que ce soit stratégique ou tactique. Donc, est-ce qu'on commande des milliers d'hommes? Dans ce cas-là, évidemment, ça va être plus facile avec des petits bouts de carton qu'avec des figurines. Ou ce qu'on appelle plus communément des jeux d'escarmouche, où là, ça va être au niveau des individus. Fait que c'est ce que Wikipédia peut nous apprendre un peu. C'est quand même intéressant. Et chose qui va trahir mon passé de travail en bibliothèque, moi, je trouve particulièrement intéressant de vous dire que le code UI pour la classification des wargames en bibliothèque, c'est le 793.92.
Oh!
Fait que vous allez pouvoir aller directement à cet endroit-là dans votre bibliothèque pour voir s'ils ont des jeux de guerre, puis je peux vous dire par expérience, il y en a qui en ont.
C'est intéressant, Maxime, parce que tu as mentionné les échelles, puis c'est vraiment plus abstrait dans les jeux de Game Workshop que dans les jeux historiques, dans le sens où dans les jeux historiques, un escarmouche, effectivement, une figurine, c'est une personne, mais par exemple, Black Powder, où on fait une grosse bataille ou une partie d'une grosse bataille napoléonienne, encore là, les scénarios, souvent, c'est même pas la bataille de Waterloo au complet, ça va être des sections de la bataille de Waterloo. Ben, une figurine, je me souviens bien, représente 42 personnes, autour de 40 personnes. Les aigles, c'était pareil, le jeu que mon grand-père jouait. Puis là, c'est comme si ta figurine avait 40 points de vie.
Ben, c'est drôle que t'en parles. Il faudrait que je retrouve un article de White Dwarf, là. Mais je me rappelle que, il y a plusieurs années, quand je travaillais au magasin, j'avais consulté un White Dwarf, puis ça mentionnait dedans que, je pense que c'était Jervis Johnson qui en parlait, qui mentionnait que dans sa vision à lui, de la façon dont il créerait les règles pour Warhammer 40 000 ou pour Warhammer, autant Age of Sigmar que pour Warhammer Fantasy, un modèle pouvait facilement, dans sa tête à lui, représenter 10, 100 personnes. Fait que quand tu prenais, mettons, 20 clan rats, puis tu le mettais sur la table dans Warhammer Fantasy, dans sa tête à lui, ça aurait pu être 200 clan rats.
Ah!
Fait que lui, dans sa vision à lui, c'était juste plus facile de faire un jeu où tu mets, oui, beaucoup de modèles sur la table, mais ça peut représenter une bataille narrative beaucoup plus grande si c'est ça le feel que tu veux donner, autre qu'en rajoutant plus de modèles.
Très cool.
Nice!
Super. Je pense que ça fait un bon tour du sujet.
Ouais,
que...
mais je suis un peu ouais, je suis un peu déçu.
Quoi?
Vous avez parlé des échelles, mais pas des serpents.
Oh!
Oh wow! Ouf!
Avant qu'on switch, je voulais juste comme soumettre une dernière idée.
Mm-hmm.
Quand je lisais, un truc qu'on, encore une fois, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de notre côté de l'Atlantique, ou du moins dans nos communautés à nous. Il y avait dans les livres, il y avait l'air d'avoir un clash, en tout cas, une distinction entre ceux qui jouaient à des wargames et qui appelaient ça une simulation, et ceux qui jouaient au wargame dans un esprit ludique. Et ce qui avait l'air d'être le clash, c'est que ceux qui faisaient de la simulation essayaient d'avoir le plus de réalisme possible. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, ma définition, que en fait, j'ai pas dit, mais c'est ça reste ça, l'important, ça reste d'être sur la simulation. Pour moi, quand je joue un wargame, ce que je veux, c'est que ça simule quelque chose, donc une bataille, donc un aspect narratif à cette bataille-là. C'est quoi l'histoire qu'on est en train de jouer? Les figurines représentent cette histoire-là. Fait que ça vient tout sous ça, là, autant la portion hobby que la portion jeu. Et je trouvais ça intéressant parce que pour moi, ça reste une simulation. Donc, ce que je veux, c'est que les règles soient au service de l'histoire. Mais effectivement, quand je lis des règles napoléoniennes ou des règles historiques où là, ils calculent le déplacement entre les parties pour une campagne avec la vraie vitesse des chevaux, là, tu es rendu à avoir des malus de tir si c'est un champ de blé versus un champ d'orge. Là, effectivement, je décroche parce que ça devient je trouve beaucoup de règles pour rien, mais je serais curieux de savoir, vous, ce que vous en pensez de quelle dose de réalisme on a besoin dans un jeu? À quel moment vous décrochez parce que c'est trop abstrait, puis à quel moment vous restez accroché parce que...
Pour tous et chacun, il y a un certain point où ce que tu décroches ou pas, parce que pour toi, c'est plus une simulation. Fait. Je pense que chacun de nous, il y a quand même des choses qu'on apprécie dans ces jeux, dans ces jeux-là, puis que si c'est pas présent, ça va être plus difficile pour nous de trouver. L'immersion.
L'aspect immersion, est-ce que moi j'ai un point peut-être que j'apporterais là-dessus, ce serait peut-être l'aspect peinture. Est-ce que, selon vous, se battre contre une armée grise devant toi, est-ce que ça brise ton immersion? Fait que c'est comme une sous-question à la question. Là. Mettons, toi, t'arrives avec une armée full paint, ton adversaire, lui, il n'est pas full paint. Qu'est-ce que, tu sais, toi, est-ce que ça brise ton immersion? Phil?
Ben, c'est un autre bon exemple de ça, c'est que tu parlais de communauté au début, ben, faut que tu apprennes ta communauté puis les personnes avec qui tu joues, les amis, peu importe. Tu sais, c'est des discussions à avoir. Si tu joues avec quelqu'un que lui, ça brise pas son immersion, que ces bonhommes soient pas peinturés, puis que toi, t'as aucun fun si l'armée est pas peinturée, ben, c'est une discussion à avoir.
Intéressant. Ouais. Intéressant.
Ouais. Pour répondre à la question de David, moi, je pense qu'on est définitivement dans le camp du jeu de loisir et non du jeu de simulation, dans le sens que le réalisme, c'est pas un réalisme de reconstitution ou de jeu sérieux, là. Par contre, je pense que ça revient un peu à ce qu'on a dit, c'est la même chose que dans les films ou les livres de science-fiction, c'est pas le réalisme, mais c'est la vraisemblance. Est-ce qu'on a un système de jeu qui est cohérent, qui se tient? T'sais, que sa cohérence interne, même si ça représente pas la vraie réalité, ça a une cohérence ensemble. Puis ça représente ce que ça veut représenter. On s'entend que la plupart de nos jeux, c'est des aliens ou des trucs fantastiques qui se battent, ben oui, on est très loin du réalisme, mais il y a une cohérence interne dans le système. Je pense que c'est ça qui est important.
Ouais, bon, ben. ça a du sens.
Ouais, donc, pour aller vers la fin de ce podcast, oui, je sais, balado, là, whatever. on pourrait parler de ce qui nous inspire dernièrement, un peu de qu'est-ce qui nous fait triper, qu'est-ce qu'on a le goût de vous partager. On pourrait peut-être commencer par Phil, parce que je pense que Phil, il y a beaucoup de belles choses à nous jaser.
Dans le fond, moi, ce qui récemment, je regarde que... Bon, j'ai hâte que ça sorte, là. C'est... On avait commencé il y a quelques années, quand il y a eu les boîtes là, de l'Horus Heresy, là, que Games Workshop avait commencé à vouloir prendre un peu ça, que ça soit plus juste du Forge World en résine. On avait commencé à regarder ce projet-là, mais c'est sûr qu'avec les règles qui ont changé puis tout ce qui est arrivé, ça l'a comme été un peu délaissé. Puis là, on voit de plus en plus là, les rumeurs que ça s'en viendrait bientôt, là, une nouvelle édition. Puis, en tout cas, moi, ça m'excite vraiment parce que ça a l'air... en fait, les rumeurs sont pas mal plus des leaks que des rumeurs. On peut s'attendre à ce que ça va ressembler beaucoup à ça. Donc, ça a l'air d'un hybride entre la 7e édition puis les éditions courantes de 40K. Donc, ça serait un système de jeu là, quand même un peu différent. Donc, puis des Space Marines qui tapent sa tête de des Space Marines tight, ben c'est toujours le fun. Fait que, ouais, moi ça m'excite. Il y a quand même des changements le fun. Tu sais, il n'y aura plus de phase de pouvoir psychique. Ça reste comme la 7e édition. Par contre, il y a de l'armure sur les véhicules. C'est encore des jets contestés, par exemple. La capacité de combat versus la capacité de combat de l'autre figurine, la force versus la toughness, c'est pas comme dans 40K en 9e en ce moment que c'est un jet simple.
Donc, ouais, il y avait l'air d'avoir comme un beau mix de nouveau puis de old school en même temps. Là.
Ouais, c'est ça. On verra tout ce qui va être la réalité de ça. Il y a aussi là, ce que les gens ont beaucoup montré, là, le concept qu'ils appellent de réaction. Fait que ça, c'est un genre de copier-coller de ce qu'il y a dans la 3e édition d'Age of Sigmar. C'est-à-dire que tu as des actions que tu peux faire en réaction à ce que l'autre fait, mais aussi à la phase de l'autre. Donc, un exemple facile, c'est une charge, tu vas avoir le Overwatch ou Hold the Line, comme à 40K en ce moment. Mais ouais, t'as d'autres trucs, comme par exemple, quand quelqu'un bouge, toi, tu peux contre-attaquer en avançant. Puis, il va en avoir des génériques, des par légion, parce que c'est l'Horus Heresy, donc ça va surtout être axé sur les différentes légions de Space Marine. On a déjà joué un peu à 40K du Space Marine contre des Space Marines entre nous autres. Fait que, ce qui est le fun, c'est quand t'as le feeling qu'il se tape sa tronche à grands coups de poing en céramite.
Fait que, ouais.
Ouais, ben c'est ça. Il y a des bonus quand t'as de l'infanterie. Les transports sont augmentés en capacité pour que tu puisses transporter tes héros. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais vu les Space Marines, quand ils sont proches des objectifs, ils gagnent du feel no pain pour défendre l'objectif. En tout cas, plein de. Il y a des tonnes de changements, là, on pourra en parler longtemps, mais ça a l'air vraiment là, un beau mix là, de règles. On verra comment que ça va être jouable. On sait que c'est pas tout. Exemple, moi, j'aime ça regarder des règles, mais quand j'arrive pour jouer, j'aime ça plus jouer le jeu. Fait que on verra s'il y en a trop, mais sur papier, ça a l'air vraiment le fun. Fait que c'est ça. Toi, Kevin, y avait-tu quelque chose qui t'intéressait particulièrement de ce temps-ci?
Moi, c'est clairement dans ma partie préférée de l'année. Bon, là, évidemment, je vais remplir toutes les préparer votre bingo là, de l'ancien employé Games Workshop. Vous allez pouvoir cocher que je fais des Ultramarines. Donc, automatiquement, je suis la partie vanilla, la plus vanilla possible. Pour les fans de ce terme-là. Moi, je tripe sur les Ultramarines. J'adore les romans d'Ultramarines. Et là, on est dans March for McCrag, le hashtag March for McCrag, qui a été starté il y a genre 5 ans par un des employés Games Workshop, Nick Baton. Je pourrais vous en parler en long et en large, là, mais on est en plein milieu de March for McCrag, qui est un événement que durant tout le mois de March, en anglais, mars, durant tout le mois de mars, les fans d'Ultramarines ou les non-fans d'Ultramarines, peu importe, sont invités à peindre des Ultramarines. Et comme j'ai une grosse armée d'Ultramarines, j'ai un backlog qui finit jamais, je me suis dit, à chaque année, je vais participer à cet événement-là, puis je vais peindre un maximum d'Ultramarines que je suis capable en dedans d'un mois. Bon, clairement que cette année, je vais probablement pas atteindre ce que j'ai fait l'année passée, mais je suis quand même well on my way. Là. Ça avance pas pire. J'ai fini une minute de plaster hier. J'ai presque fini 10 intercesseurs. Fait que moi, je fais ma crack, gros mois, grosse peinture. Je lis des romans, j'écoute des audiobooks, puis j'assemble, puis je peins des Ultramarines. C'est comme Noël, mais au mois de mars.
Nice.
David?
Oui! Je me suis abonné, quand j'ai voulu en savoir plus sur le Wargame, à une revue qui s'appelle Wargame Soldiers and Strategy. Ça, c'est super intéressant parce que c'est des gens qui écrivent sur le wargame en général. Ils ont souvent un thème à chaque revue. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que dans ces revues-là, tu as des scénarios qui vont avec le thème. Là, cette fois-ci, le dernier numéro, le 118, c'est sur la Sicile. Fait que tu as des scénarios sur toute l'histoire de la Sicile, des guerres qu'il y a eu là. Et ce que j'aime souvent dans le scénario, c'est qu'ils vont développer des mécaniques différentes pour bien représenter ce que tu veux voir sur la table. Puis moi, c'est ce que j'aime quand les règles sont au service de l'histoire. Fait que là, il y a le scénario qui s'appelle Assault on Johnny One, qui se passe en juillet 43, pendant l'opération Fustian. Dans le fond, il y a des parachutistes britanniques qui sont envoyés pour prendre et consolider le pont Primosole sur la rivière Simeto. Et là, je vous ai mis la carte si vous voulez jeter un œil là, dans notre channel général pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, ce que j'aime quand tu regardes cette carte-là, c'est que la ferme est dessinée, les champs sont dessinés, tu vois le champ, ça te met tout de suite dans l'ambiance de la game que tu vas jouer. Puis cette game-là, ce qui est intéressant, donc, ça commence, ils envoient les parachutistes, un désastre de friendly fire, la marine commence à tirer sur les avions. Fait qu'au lieu du 1826 soldats qui se rendent là, il y en a juste 283 qui sont là, puis leur but, c'est de prendre une colline qui a été nommée Johnny One. Puis là, en haut de cette colline-là, tu as les Italiens qui sont retranchés et il y a plein de cavernes. Ce qui arrive, c'est que quand les Britanniques se sont rendus là, ils ne voyaient pas nécessairement l'entrée des cavernes. Souvent, ils la voyaient au moment d'arriver à côté ou après l'avoir dépassée. Puis il y avait des Italiens qui sortaient de là. Fait que dans leur scénario, pour représenter ça, ils ont mis une règle spéciale qui est caverne. Puis dans le fond, au-delà de ta liste de base, le joueur italien va avoir une petite unité de recrues, dans le fond. Là, c'est fait pour Bolt Action, fait que les termes de Bolt Action, ils appellent ça des Green Rated Infantry. J'imagine que c'est des recrues, dans le fond. Puis, au début de la game, tu mets... Il y a quatre cavernes. Puis tu mets quatre jetons. Il y a trois jetons non, puis un jeton oui. Puis le joueur italien va en piger trois au hasard. Fait que ça se peut que cette unité-là arrive jamais. Puis après ça, il va, dans le déploiement, il va pouvoir déployer les trois jetons au lieu d'unité. C'est lui qui décide où il les met, mais son adversaire ne voit pas ses goûts. Fait que son adversaire, quand il va prendre d'assaut la colline, là on voit les cavernes, là, si vous regardez la carte, sont bien réparties que tu peux difficilement les éviter en prenant d'assaut la colline, mais ton adversaire ne saura jamais s'il y a une unité qui va sortir ou pas. Fait qu'il ne pourrait jamais venir de la game, puis s'il y en a une, il ne saura pas de laquelle. Puis c'est à partir du tour 3. Ça doit être lié aux règles de Bolt Action. Peuvent arriver. Fait que là, je trouve que ça rajoute toute une nouvelle dimension à ta game que tu n'avais pas avant. Cette idée que ben, y a des troupes ennemies qui sont cachées dans ces cavernes-là, puis tu ne sauras pas avant la dernière minute s'ils vont arriver.
Vraiment cool.
Les Britanniques, pour leur objectif, quand ils parlent de la table, il y a deux objectifs qui sont placés par les Italiens qui sont des sacs de sable, c'est des positions défensives qu'ils doivent défendre. Puis il y a la grange que tu vois sur la carte qui est en haut, qui est un objectif. Le joueur britannique écrit sur un papier c'est quoi son objectif pour prendre la colline. Fait que le joueur italien ne sait pas c'est lequel non plus. Après ça, tu peux essayer de deviner au fur et à mesure de la partie. Mais encore une fois, je trouve que ça rajoute un autre élément au scénario où là, tu es plus dans l'immersion de ton ennemi arrive vers toi, tu sais qu'il veut prendre la colline, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il vise. T'sais.
Ah, c'est vraiment cool. Le goût de jouer à Bolt Action.
Ben, c'est vraiment cool, mais dans le fond, évidemment, on va mettre la carte... sur le groupe Facebook, fait que vous allez pouvoir aller le voir en écoutant la balado. Mais dans le fond, tu parles d'un scénario d'un jeu en particulier, mais est-ce qu'il s'adapterait facilement à d'autres jeux, tu penses?
Ben moi, je pense que oui. Puis c'est ça que je trouve intéressant avec ces scénarios-là, c'est que ça te donne déjà une base, une idée de l'histoire. Après ça, tu te dis hey, comment je pourrais faire ça avec, je sais pas moi, de la Black Legion qui débarque sur Cadia puis qui doivent prendre cette colline-là. Fait que là, t'as le défenseur qui est un Space Marine, qui est la Militarum Cadia. T'as tes Black Legion. Puis après ça, t'as la structure narrative du scénario, la structure de règles. T'as juste à voir comment ça fit avec les règles de 40 000. Mais moi, je pense que c'est adaptable.
Max? Hey.
Oui. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de l'actualité. On a parlé pendant tout l'épisode de Wargame, de guerre et de conflit. Puis, ça serait difficile de passer sous silence qu'il y en a un en ce moment dans la vraie vie, l'invasion russe en Ukraine. Inquiétez-vous pas, dans notre balado, on ne parlera pas politique, on va se concentrer sur un jeu qui est un loisir. On ne veut pas que ça devienne lourd, mais on pensait que c'était quand même important d'indiquer que c'est pas parce qu'on joue à la guerre qu'on est pro-guerre, qu'on est pro-militaire et qu'on souhaite que ça arrive dans la vie de tous les jours. Fait qu'on a un mot, en tout cas, je voulais, puis je pense que c'est partagé par tout le monde sur le podcast. On voulait partager notre solidarité avec les gens qui vivent la guerre, malheureusement, de façon trop réelle. Et définitivement, on considère que c'est préférable de jouer avec des petits bonhommes en plastique pour faire la guerre. Fait que c'est un des éléments que je voulais amener. L'autre, on enregistre en mars, comme Kevin l'a indiqué avec son point, spécifiquement le 8 mars. Qui est donc la Journée internationale des droits des femmes. Et ça permet de passer l'autre position éthique, je pense, qu'on veut prendre ensemble, qui, pour moi, on le vit dans notre hobby à tous les jours, mais je pense que c'est toujours important de le dire, que oui, c'est un hobby qui est peut-être majoritairement masculin, qui a un historique, qui a ses défauts, mais qu'on veut travailler pour qu'il soit inclusif, que tout le monde, peu importe son sexe, son genre ou toute autre caractéristique, puisse jouer, puisse avoir du plaisir et faire partie de la communauté.
Mais merci Max, sérieusement, effectivement, je pense que c'est un beau message à passer. Donc, pour conclure, est-ce que, Simon, veux-tu faire le mot de conclusion? Je pense que, en étant l'invité, c'est un peu à toi que Olivier, c'est honneur.
Oh my God. Je suis sur le spot, là.
Ah, c'est ça. J'aime ça.
Ben, le mot de conclusion, le mot de la fin, ça serait je pense, s'il faut donner un mot, là, je vais dire, le mot, ça va être communauté. Fait que, trouvez-vous une communauté qui fait... Ben, que ce soit dans la vie ou d'autres choses, trouvez-vous une communauté qui ont les mêmes intérêts que vous, puis ça va améliorer un paquet de choses dans votre vie. Je pense que si c'est votre dada, vous, c'est la cuisine, ou si votre dada, c'est le sport, trouvez-vous une communauté qui vous ressemble. Puis avec les temps de pandémie et de périodes difficiles, ben ça va aider tout le monde à traverser ça. Fait que ce serait ça mon mot de la fin.
Ah, c'est bien beau. C'est déjà fini pour nous autres. C'est pas mal la fin de l'épisode. Écoutez, on espère que vous avez apprécié l'épisode. Nous autres, on a vraiment eu du fun à le faire. Évidemment, on commence le podcast. C'est notre premier épisode. Ça va aller en s'améliorant. On aimerait ça que vous partagiez la page Facebook Soirée Peinture Le Balado. Si vous aimez ça, ben, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur notre page Spotify, sur Balado Québec aussi. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires, des questions. Puis, surtout, honnêtement, je pense que je peux en parler au nom de tout le monde, mais partagez-nous votre hobby, ce que vous travaillez dessus, ce que ça vous a fait triper. Partagez avec nous ce que vous faites. Puis, je vous souhaite une bonne soirée.
Oh yeah!
C'est bien cool ça comme début d'enregistrement. Ah non, mais je me force parce que c'est le premier épisode là.
Ça va être coupé au montage.
Ah, tiboire!
Vous aviez dit qu'il n'y en avait pas de jeu de mots dans le balado. C'est la faute à Kevin. La plupart de ce qui nous arrive dans notre hobby de mal et de bien, c'est la faute de Kevin.
Ben,
Ben, c'est ça, c'est de ma faute.